Radio Kenny, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are coming here, Paris. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Much ado about nothing, what you do is fight it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things will die, I better run like Pericles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans le Canu Info, nous sommes le mercredi 22 avril, il est 19h passé de 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?
Eh bien, on commencera par des brèves sur le terrorisme.
Ensuite, on parlera d'une manifestation contre les expulsions.
Puis du projet de loi Rebsamen sur la réforme du travail.
Ensuite, on aura une grosse, grosse rubrique « Il faut que ça se sache » et on reviendra sur ce naufrage et plus généralement sur les politiques migratoires, sur les déclarations, tout ça, tout ça.
On aura un petit agenda suivi du fil d'Ariane qui, ce soir, parlera
du droit au séjour des étudiants étrangers. Alors, on a appris aujourd'hui que l'antiterrorisme français était d'une efficacité à toute épreuve. Alors, amis terroristes, écoutez bien, il va falloir changer quelques méthodes pour éviter de se faire choper la prochaine fois que vous envisagez de passer à l'acte. Évitez de vous tirer une balle dans le genou et de finir aux urgences en laissant plein de votre sang sur une scène de crime, pardon. Car c'est avec tous ces minutieux indices que la SDAT a déjoué un attentat aujourd'hui. Alors, pas sûr que la loi de surveillance généralisée y change quelque chose, mais en tout cas, ils risquent de rajouter dans leur boîte noire pour Internet comme comportement suspect. Alors là, je cite, « Comment faire quand on se tire une balle dans le pied ?» Alors attention à vos prochaines recherches Google. Ce terroriste en herbe, affilié a priori à Daesh, envisageait selon l'antiterrorisme d'attaquer une ou deux églises dans la région parisienne. Alors bien sûr, la presse et les politiques ont monté tout ça en mayonnaise pour nous faire gober une espèce de choc des civilisations. Sauf qu'on rappelle tout de même que l'État islamique a tué bien plus de musulmans que de chrétiens ou d'athées ou autres personnes. Un collectif de citoyens appelle à un rassemblement ce vendredi 24 avril à 12h30 devant la préfecture de Lyon. Le collectif invite à venir, alors là je cite, avec des cartons pour réserver une surprise au préfet. Venez avec quelque chose à manger ou à boire pour un repas populaire sous les fenêtres préfectorales. Bon, on ne connaît pas trop la teneur de cette surprise, mais pour le savoir, rien de mieux que de se rendre au rassemblement. Pour rappel, le palmarès du nouveau préfet Michel Delpech, c'est pas une blague, hein, c'est vendredi 10 avril, expulsion du campement d'Herbouville à Lyon 4, 60 personnes à la rue. Mardi 14 avril, expulsion d'un squat Yves Farge dans le 7e arrondissement, au moins 150 personnes à la rue. Mercredi 15 avril, expulsion du squat des Trois Maisons à Vénissieux, 70 personnes à la rue. Jeudi 16 avril, expulsion du squat de la Boutasse à Bron, au moins 150 personnes à la rue.
Projet de loi Rebsamen, donc réforme du travail. Donc le but du projet de loi, donc qui est le projet, son nom c'est le projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l'activité des salariés, est de transformer l'échec de la négociation donc entre les syndicats et l'ancestral patronat sur le dialogue social en progrès social majeur, donc c'est le nouveau nom, progrès social majeur. Et il était présenté aujourd'hui, mercredi 22 avril, au Conseil des ministres, donc par notre ministre du Travail du même nom, Rebsamen. Donc, qu'est-ce qui l'implique. Donc une prime d'activité fusionnant le RSA activité et la prime pour l'emploi. Donc il crée à compter du 1er janvier 2016 une prime d'activité qui remplacera la prime pour l'emploi et le RSA d'activité. Sinon, il y a un équilibre femmes-hommes. Donc le projet introduit l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflètent leurs proportions respectives dans les collèges électoraux. Sinon, un dialogue social soi-disant plus stratégique. Donc les obligations de négocier dans l'entreprise sont ramenées à 3. Alors qu'elles étaient à 17 avant, chaque année sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, ainsi que sur la qualité de la vie au travail, tous les 3 ans dans les entreprises d'au moins 300 salariés sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Sinon, il y a la valorisation des parcours professionnels et une représentation universelle des salariés dans les très petites entreprises. Voilà, j'ai pas tout compris. Il y a les deux premiers que j'ai compris là sur équilibre femmes-hommes et la prime d'activité fusionnant l'activité de la pour la prime de retour à l'emploi. En gros, ils veulent donner moins de sous. Voilà.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment. À leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine.
Et voilà, on a décidé aujourd'hui de faire un gros, il faut que ça se sache, pour prendre le temps de parler du naufrage en Méditerranée. Alors pour ma part, je vais commencer par quelques chiffres. Et jusqu'au printemps 2015, donc le drame de Lampedusa d'octobre 2013, au cours duquel 366 migrantes avaient trouvé la mort, était le plus grand de tragédie migratoire de la Méditerranée de ce début du 21e siècle. Et la disparition d'au moins 700 personnes lors du naufrage d'un chalutier ce week-end montre que c'est maintenant bien pire. Donc tous les chiffres qu'on va dire proviennent du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Donc 3419 migrantes et migrants morts en Méditerranée en 2014. 1776, c'est le nombre de migrants portés disparus en mer Méditerranée depuis le 1er janvier 2015. Sur les 36 390 arrivés par bateau dans le sud de l'Europe, dont de Ceuta et Melilla en face de Gibraltar au fleuve Evros en Grèce du Nord. 300 dans la seule seconde semaine de février 2015 au large de Lampedusa. S'y sont ajoutés les 400 disparus le deuxième week-end d'avril, 40 nouveaux morts mercredi dernier et donc 700 naufragés ce troisième week-end. Donc tel est le dramatique bilan de la politique de fermeture des frontières menée par l'UE. Au tiers de l'année 2015, c'est donc la moitié du nombre de morts recensés sur l'ensemble de l'année 2014 qui pourraient avoir été atteints, qui sont atteints en fait. La politique concertée de rejet des migrants et des migrantes menée par l'Union européenne a provoqué depuis 2000 la mort de plus de 22 000 migrants et migrantes en Méditerranée, soit en moyenne, une moyenne de 1 500 morts par an. En 2014, c'est environ 75% des migrantes qui sont mortes dans le monde qui ont péri en Méditerranée. Pour donner une idée, donc 75% sur en bateau, quoi. Quant aux survivantes, ils et elles sont confinés dans des camps de rétention quand ils ne sont pas jetés à la rue ou quand ils ne sont pas regroupés dans un bidonville d'État, comme c'est dorénavant le cas juste à côté de Calais. Donc je redis, 36 390, c'est le nombre de migrants arrivés sur les côtes européennes depuis janvier 2015. En 2014, c'était l'année record, il y a eu 219 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée, et c'était, pour donner une idée, 10 fois plus qu'en 2012. Et dans les faits, donc, le plan européen pour la gestion des flux migratoires s'est traduit par l'opération Triton, de contrôle renforcé et de répression des migrants en Méditerranée. Cette opération est en partie responsable des nouveaux morts enregistrés depuis février dernier. Donc le fond, non. Et 150 000, c'est au moins le nombre de personnes qui a permis de secourir l'opération Mare Nostrum. Donc Triton a remplacé l'opération Mare Nostrum. Triton est une opération de surveillance. Mare Nostrum était une opération de sauvetage des migrants. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc Mare Nostrum avait eu lieu entre octobre 2013 et octobre 2014. Et 150 000 personnes, ça fait environ 400 personnes par jour. Donc cette opération militaro-humanitaire lancée par l'Italie était à l'œuvre 24 heures sur 24 dans la Méditerranée. Alors certes, c'était la marine italienne, donc l'armée qui gérait cette action humanitaire. Là, Triton, c'est Frontex qui gère. Et Mare Nostrum était sur l'ensemble, allait jusqu'aux côtes libyennes pour le sauvetage, tandis que Triton est seulement sur les eaux territoriales européennes. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est notamment la responsabilité du nombre de morts actuels. On peut aussi le voir dans leur politique européenne de changement, en tout cas de passer de sauvetage à surveillance. Voilà, ça crée des milliers de morts en plus. Et pour finir, juste pour une idée de budget, 3 millions, c'est le budget mensuel de l'opération Triton. Et 9 millions, c'était le budget mensuel de l'opération Mare Nostrum. Donc c'est pas le même nombre de moyens qui sont donnés à ces deux actions.
Il faut que ça se sache.
Et du coup, pour revenir là sur le dernier point dont tu parlais, là, en gros, il y a Dimitri Avramopoulos, qui est le commissaire européen en charge du dossier, qui a dit, je cite, « Si nous n'agissons pas maintenant, la crise va prendre des proportions dangereuses dans les mois qui viennent. Enfin, » Ça fait plusieurs mois que les morts s'entassent en Méditerranée, mais bon, il faut un gros naufrage en plus de tous les autres pour qu'ils réalisent que la crise prend des proportions dangereuses. Il prévoit un plan en 10 points, et alors le plan prévoit entre autres le doublement des moyens pour la mission de surveillance maritime Triton, qui pourra patrouiller, donc comme tu le disais, dans les zones plus larges et devra participer au secours. Donc c'est ça, donc comme tu le disais tout à l'heure, là, Mos Maiorum c'était 9 millions d'euros par mois, Triton c'était 3 millions par mois. Donc en doublant les 3 millions, on arrive toujours en dessous des 9 millions de l'opération Mos Maiorum. Donc voilà, ou comment faire de grandes déclarations.
C'est Mare Nostrum. Oui, Mare Nostrum, c'est l'opération interne de...
Ah ouais, je me suis trompé.
Le bagage de tous les 100 peuples.
Ok, donc comment tu dis ?
Mare Nostrum.
Mare Nostrum, voilà.
Mais ils font exprès de prendre des noms latins trop chiants.
Et ouais, et moi comme j'ai pas fait latin au collège... Voilà, donc voilà.
Ça veut dire notre mère.
Ah
c'est ça.
Ok, mais j'aurais dû faire latin alors. Donc voilà, donc il fait de grandes déclarations à chaud, mais qui, une fois comparées à la réalité, retombent comme un soufflet au fromage. Dans le même temps, ouais, parce qu'il faut faire un peu des blagues là pour aller sur le sujet quand même. Dans le même temps, Gilles Arias, alors qui est Gilles Arias ? C'est le directeur adjoint de Frontex, qui lui est en totale panique, hein, parce que, on le rappelle, hein, Triton est géré par son agence. Donc voilà, oui, c'est son agence qui gère Triton depuis 5 mois, et ils se sont donc un peu obligés de justifier pourquoi ses promesses de surveillance ne marchent pas totalement et qu'elle fait juste prendre beaucoup plus de risques aux migrants. Alors pour se justifier, un tout petit chiffre que j'ai trouvé dans Le Monde, 2 510 000, c'est la superficie en kilomètres carrés de la mer Méditerranée. Et sur ce chiffre, il dit, je cite, nous ne pouvons pas oublier que la Méditerranée est immense. On ne peut pas contrôler et surveiller absolument toutes les zones où l'on peut éventuellement avoir des migrants et tenter d'éviter des tragédies. Alors pour ça, il envisage l'ouverture d'une nouvelle, je cite, voie d'immigration légale pour les personnes fuyant les conflits. Bon, pour cette dernière phrase, on voit pas bien de quoi il se mêle, puisque quand même, il est directeur adjoint de Frontex et non un ministre quelconque de l'immigration, ou je sais pas quoi d'autre, à moins qu'ils veulent faire passer un corridor où il ouvrirait les Frontex, mais ça j'en doute fortement. Mais ce Gilles essaye de se faire passer pour la solution, alors qu'il fait bel et bien partie du problème et qu'il a autant de sang sur les mains que ces fameux passeurs. Autre déclaration, alors cette fois-ci c'est le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a critiqué vigoureusement les politiques migratoires cyniques de l'Union européenne, accusant Bruxelles de transformer la Méditerranée en un vaste cimetière. Bon, en général, les déclarations du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme restent des déclarations. En général, les politiques n'ont strictement rien à foutre. De son côté, Hollande, notre cher président, qui en ce moment n'a qu'un seul mot à sa bouche, a déclaré, je cite, « Il faut lutter contre le terrorisme ». Oui, c'était pas une blague. Je me suis pas trompé dans les articles et tout, c'est vraiment ça. « Parce qu'il faut savoir que ceux qui font les trafics, qui mettent des personnes sur des bateaux pourris, des vaisseaux qui sont faits pour disparaître en mer, sont des terroristes ».
Ah, les passeurs sont des terroristes.
Voilà. Mmh. En luttant contre ces trafiquants, nous lutterons contre les terroristes. Et en luttant contre les terroristes, nous lutterons contre ces trafiquants. Parce qu'ils se financent sur la misère du monde, sur la détresse, sur la mort. Bon, ça, c'est une situation qu'on aurait pu lui attribuer à lui.
Est-ce que tu veux dire qu'en surveillant Internet, il va sauver des vies en Méditerranée?
Ben ça, on sait pas trop, hein, peut-être.
Est-ce que tu veux dire que si c'était mis une balle dans le pied, peut-être qu'on aurait sauvé les naufragés des...
Peut-être. Ah. Ou alors peut-être que tout ça intervient pour... Non, on sait pas. Alors, sauf que si les gens qui font payer d'autres pour qu'ils s'entassent dans des bateaux pourris au risque de mourir en mer sont bel et bien de véritables ordures, ils n'ont absolument rien de ce qu'on appelle un terroriste. Ils ne font pas ça pour une cause quelconque, ils ne terrorisent pas une population, si ce n'est les gens qui s'engagent à monter dans les bateaux, qui sont terrorisés d'être dans des bateaux comme ça. Mais ils sont juste là pour se faire du fric en n'ayant strictement rien à foutre que ces gens qui ont décidé de fuir ou de partir de leur pays arrivent morts ou vifs. Mais bon, ça, Hollande le sait très bien. Mais tant qu'il peut profiter de n'importe quoi pour justifier entre les lignes ses lois antiterroristes, il le fera. Surtout qu'à ses déclarations, aucun journaliste ni aucun autre politique ne lui a opposé le fait que l'utilisation du terme terroriste était complètement faux.
Et après ce grand cirque de déclarations, eh bien, le traitement médiatique par rapport à ce naufrage qui s'est étalé partout et qui dégoulinait pour le moins de sensationnalisme et de sens du scoop largement malvenu, ça a rendu un truc évident, c'est qu'il faut 800 morts pour faire la une et pour faire un buzz quand on parle de migration. Puisque ce n'est que lors des naufrages que les médias mainstream développent la situation en Méditerranée. Et encore, il y a un nombre de morts minimum pour en faire un sujet. La presse étale chaque fois plus son impudeur dans ce qui est, bien sûr, un drame, ça c'est sûr. Mais une seule mort, c'est un drame aussi. Ça obéit au même rouage, au même besoin, au même danger, et c'est intégré exactement dans le même système. On parle d'une personne, dans un contexte, qui quitte une situation invivable, que ce soit une guerre, une dictature ou le dénuement économique, tout simplement, pour tenter d'accéder à notre Éden. Jamais, bien sûr, l'information n'est traitée sous cet angle, car elle se plie simplement à la loi des chiffres. On ne parle pas d'humains, on parle de statistiques. On évite de développer les causes politiques, l'implication de la France en Libye et sa responsabilité à ce niveau, par exemple, ou encore le traitement larmoyant de la situation en Syrie depuis 4 ans, la diabolisation d'Al-Assad, qui ne sont jamais mises en lien avec le fait que la majorité des migrants en Méditerranée sont justement d'origine syrienne. Et sans parler non plus de la manière dont l'indéboulonnable Frontex dirige la politique anti-migratoire en agissant dans l'ombre depuis sa création en 2004. Frontex, c'est, on le rappelle, on en a parlé souvent, l'agence européenne chargée de la sécurité aux frontières extérieures, qui siège à Varsovie. Depuis quelques mois, elle est dirigée par Fabrice Légéry, qui est un haut fonctionnaire français, qui a officié au ministère de l'Intérieur et aussi au ministère de la Défense. C'est un homme de cœur, bien, comme ça. Frontex est un organisme semi-privé qui est doté d'équipements qui tirent franchement sur le paramilitaire et d'un budget dans la proportion de l'Union européenne qui avoisine 90 millions d'euros par an. C'est via Frontex qu'a été organisé le fait de sous-traiter à la Libye, au Maroc, à la Bulgarie notamment, les arrestations et la rétention des migrants pour que ceux-ci ne se rapprochent pas du cœur de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont parqués avant même de pouvoir vraiment rentrer. Pour complexifier aussi encore davantage les demandes d'asile, ce qui est bien sûr illégal, et diminuer leur prise en charge par les États membres de l'Union européenne. À la base, Frontex se chargeait de la coordination et organiser le déploiement des forces et des équipements des nations, notamment la Grèce ou l'Italie par exemple, quand ils ont dû faire face à des vagues massives de migrants. Mais depuis 2011, l'Europe a décidé d'augmenter les pouvoirs qui lui étaient attribués, et Frontex est devenue aussi une agence de renseignement aux renseignements internes de chaque État, a commencé à acquérir du matériel, alors beaucoup de surveillance et aussi beaucoup de transport, puisque Frontex se charge des retours des migrants dans leur pays d'origine, et c'est aussi Frontex qui s'occupe de la formation des gardes frontières des États. L'externalisation du contrôle, et il faut bien se dire quand même qu'elle est permise grâce à des accords commerciaux, notamment Euromed, ou alors dans les accords d'intégration à l'Union européenne. Ce volet, ça fait partie des conditions lors de la discussion de ces accords. Ce stratagème ne fait que souligner à nouveau les pressions et les mainmises de l'Union européenne sur ses voisins et sur ses éléments les plus pauvres.
Alors, face à tout ça, eh ben, l'Union européenne parle de renforcer la surveillance, comme on l'a vu, hein, de renforcer la surveillance, de combattre les passeurs. Les ONG, elles, pour, dans l'idée de sauver les vies, parlent de renforcer des missions de sauvetage, de recommencer peut-être ce Mare Nostrum ou des choses comme ça. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de remonter un peu plus loin vers la racine du problème, voire de se poser des grandes questions en termes de quel droit, ou le bien, le mal, tout ça. Alors. Voilà, on s'accorde médiatiquement pour trouver que tout ça c'est la faute des salauds de passeurs, mais l'existence même des passeurs, elle vient d'où ? Eh ben, en gros, on peut se dire que dans le monde, il y a des coins où il y a plein de monde et pas beaucoup de richesse. Et de la richesse, on peut parler en termes de fric, en termes de nourriture, en termes de plein de ressources, enfin, en termes de médecine, de choses comme ça. Et puis des coins où il y a moins de monde et bien plus de richesse. Par exemple, en particulier l'Europe. Alors, même si c'est une richesse toute relative hein, en Europe, et même s'il y a aussi à l'intérieur de l'Europe des sérieuses égalités, tout ça, c'est pas rose pour tout le monde ou quoi, mais en tout cas, de fait, la réalité, c'est que même les pauvres ici en France sont quand même souvent plus riches qu'un paquet de monde en Afrique, en particulier. Et qu'on peut dire qu'en France, aujourd'hui, là, en ce début de 21e siècle, un peu, bah, tout le monde a à peu près à manger, tout le monde a à peu près de quoi s'habiller, et tout le monde peut plus ou moins se faire soigner. Alors, plus ou moins ça, mais quand même pas mal. Et du coup, ça c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'un bon paquet d'autres endroits de la planète. Et du coup, dans ces conditions, bah, ces histoires de migration, c'est un peu inévitable. Alors, bah, en gros, c'est ça. T'imagines, il y a vraiment rien chez toi, et puis ton voisin, il a une maison énorme, et vraiment rien chez toi, c'est au point que tu vas clamser parce que t'as plus à manger. À un moment ou un autre, tu vas aller chez ton voisin, tu vas sonner, il va pas t'ouvrir, et puis tu vas demander poliment, tu vas demander moins poliment, puis à un moment, tu vas creuser par-dessous la cave, quoi, pour passer chez lui, pour aller piller sa cave. Et évidemment, parce que juste c'est un réflexe de survie. Et du coup, voilà, face à ça, eh ben, on peut se dire qu'on va faire de l'Europe toujours plus et toujours plus une forteresse, qu'on va vraiment l'entourer de murs partout. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, une fois qu'on l'aura entouré de murs, les gens, ils vont creuser des souterrains pour entrer. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être impossible d'arrêter ces tentatives et d'arrêter qu'elles réussissent en particulier quand on voit ce que les gens sont prêts à faire. Par exemple, en se jetant sur les grilles à Ceuta et Melilla ou des trucs comme ça. C'est évident qu'on peut pas rester juste entre Européens.
Ou à Calais. Parce que l'Angleterre a donné des thunes pour qu'il y ait des grilles qui soient construites de la même manière.
Eh ben oui, non mais oui, c'est ça. Et alors après, enfin, ouais, du coup, je vais vraiment me dépêcher. Mais alors, en termes de légitimité, en fait, on peut déjà se demander qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont d'un côté du mur et ceux qui sont de l'autre côté. C'est vraiment une histoire de hasard de naissance, en gros. Enfin, bon, après, sauf ceux qui sont passés ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même des questions qui valent le coup de se poser. C'est que nous, on aurait pu naître à 1000 km plus au sud. Et enfin, je dis 1000. Peut-être il faudrait plusieurs milliers.
Ouais. Non, bon, bref. À partir de 1500, ça doit marcher.
En tout cas, on n'aurait pas du tout les existences qu'on a maintenant. On pourrait pas engraisser grâce au RSA comme on le fait tout le temps. Et puis, si ça se trouve, on galérerait pour trouver à manger. Si ça se trouve, on aurait des proches qui mourraient de maladies bénignes parce qu'on aurait juste pas les moyens de payer un toubib. Et voilà, c'est une histoire de hasard. Et alors, c'est même pire que ça parce qu'en réalité, si le monde est dans cet état d'endroits comme ça, c'est quand même aussi le résultat d'une histoire d'un certain nombre de siècles où en gros, entre l'Europe et l'Afrique, c'est vraiment l'Europe qui a siphonné les richesses de l'Afrique pendant un certain nombre de siècles et les richesses minières et qui a même siphonné les populations là pour les envoyer cultiver le coton aux États-Unis, enfin qui était en Amérique en tout cas. Et tous ces trucs sont peut-être à prendre en compte à un moment ou à un autre pour se dire que tous ces gens qui clament sans Méditerranée, ils clament parce que nous, après tout ça, dans l'état où on est, on veut tellement protéger notre mode de vie qu'on est vraiment prêt à les laisser mourir alors qu'à un moment, il faut peut-être se poser la question d'une façon globale et peut-être avec, en tout cas, moi j'aurais tendance à le faire avec une sorte de je sais pas quoi, égalitariste, et de se dire il y a juste pas de raison, et en fait il y a pas non plus de raison que je préfère le bien-être de quelqu'un que je connais pas et qui habite à 3 rues de chez moi au bien-être de quelqu'un qui habite à 3000 km au sud de chez moi, parce que juste, voilà, c'est pareil. Bon, j'ai plus le temps, de toute façon c'est l'heure du fil d'Ariane.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal,
audience,
signification,
putatif,
amiable,
juridiction, convocation,
assignation,
flagrant, procureur,
amiable,
constitution,
signification,
procuration,
incompétence,
amiable,
signalement,
convocation,
relax,
abusif,
procureur,
flagrant, constitution,
amphithéotique,
procureur,
juridiction,
assignation,
requête,
récitation,
constitution,
authentique,
incompétence,
exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est la quatrième émission du fil d'Ariane. Pour ceux qui ne nous auraient pas déjà écoutés, donc on a un petit collectif de quatre avocates et on a proposé cette rubrique au CANU Info pour donner des infos pratiques sur le droit, les droits et le monde de la justice. Aujourd'hui, on va vous parler du droit au séjour des étrangers, et plus précisément, parce que c'est un sujet qui est bien vaste, du droit au séjour des étudiants étrangers, puisque les étudiants étrangers bénéficient d'un régime juridique particulier et qu'ils ont même une carte de séjour spécifique, la carte de séjour étudiant. Donc, c'est quoi déjà cette carte de séjour étudiant ?
Alors, la carte de séjour étudiant, donc...
Excusez-moi ! Petit accident de micro.
Les studios de Radio Canada. Ouais.
Alors, la carte de séjour étudiant, donc sachant qu'on parle ici de la première délivrance du titre de séjour, et un peu plus tard dans l'émission, on évoquera la question du deuxième, troisième et tous les titres de séjour ultérieurs, donc la question du renouvellement. Pour la délivrance du premier titre de séjour, donc pour les ressortissants étrangers non citoyens de l'Union européenne, deuxième exclusion, en gros, les conditions, c'est, y en a trois, avoir un visa long séjour, j'expliquerai juste après ce que ça signifie concrètement, pouvoir justifier d'un certificat d'inscription, de pré-inscription dans une université en France, et troisième condition, justifier de moyens d'existence suffisants, donc en gros d'une source financière pour financer ses études sur le territoire français. Alors, la condition du visa long séjour, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une condition vraiment à part entière. Alors, il existe des dérogations, ça serait trop long de revenir sur toutes ces dérogations durant l'émission, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont très très limitées et très spécifiques. Voilà, le grand principe, c'est qu'il faut un visa long séjour pour avoir ensuite un titre de séjour étudiant. Ça signifie du coup concrètement cette condition de visa long séjour que pour la délivrance du premier titre de séjour, l'essentiel de démarche en réalité va se faire dans le pays d'origine, donc le pays d'où on vient, soit auprès de l'ambassade, soit dans certains pays, la France a mis en place des centres, a confié la mission d'examen des demandes de titre de séjour, de visa long séjour pour les étudiants à des centres donc qui ne font que ça, qui gèrent ces demandes. Ce qui signifie également, du coup, concrètement, que c'est dès le stade de la demande de visa qu'il faudra justifier de l'inscription à l'université ou de l'admission à l'université, et aussi donc des conditions financières, donc des moyens d'existence par rapport au projet d'études. Et troisième petite observation sur ce point-là, c'est que la condition de visa, long séjour, mention étudiant, elle est d'autant plus importante qu'il y a une réforme depuis plusieurs années qui a été mise en place en France qui consiste à estimer qu'il est impossible de s'inscrire dans une université française si on n'a pas un titre de séjour. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne peut plus entrer en France, par exemple, avec un visa touriste, en ayant en tête un projet d'études ou une fois arrivé sur le territoire en se disant bah, « j'aimerais étudier ici » et s'inscrire à l'université avec ce visa touriste. Alors même donc qu'on serait régulier sur le territoire puisqu'on a un visa, on ne peut plus faire cette démarche puisque non seulement le titre de séjour serait refusé, puisqu'on n'a pas le visa long séjour spécial étudiant, mais surtout on serait de toute façon dans l'impossibilité de s'inscrire auprès de l'université. Voilà, ça c'est les conditions donc pour la délivrance de ce titre de séjour. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'esprit, l'objectif un peu de ce titre de séjour, il est spécial. Donc l'esprit dans lequel ce titre de séjour a été créé par la législation française, c'était de permettre à des personnes d'étudier sur le territoire français, mais toujours avec cet objectif, et on va y revenir tout au long de l'émission, ça revient dans toutes les dispositions en réalité pour les étudiants étrangers qui résident en France à ce titre-là, c'est que le titre de séjour étudiant, il n'a pas vocation à permettre de résider dans le temps sur le territoire. C'est-à-dire que le but, en gros, c'est d'étudier et retourner dès la fin des études dans le pays d'origine, voilà, d'où on est venu. Et la conséquence de cette logique, puis on va le développer un peu plus tard, c'est que même si, par exemple, on a résidé 10 ans sur le territoire français en situation régulière avec un titre de séjour étudiant, on aura à l'issue de cette très longue période de résidence et tout ce qu'on peut tisser comme lien durant cette période de résidence, malgré cela, on n'aura aucun droit au séjour automatique en tout cas, et aucune protection contre l'éloignement. En gros, toutes les années de résidence passées en France avec un titre de séjour étudiant ne comptent pas juridiquement. Et puis, dernière chose aussi, la durée de ce titre de séjour. Donc, la loi prévoit désormais qu'on peut avoir une carte pluriannuelle. Donc, une carte. Alors, le principe en matière de droit au séjour pour les ressortissants étrangers, c'est la grande pratique, c'est d'avoir une carte de séjour d'un an. Pour les étudiants, on a mis en place une carte pluriannuelle, donc qui peut durer de 2 à 4 ans, sachant qu'il faut quand même justifier chaque année de la réussite dans ses études. Donc, quand bien même on a matériellement le titre de séjour, on doit quand même justifier qu'on remplit encore les conditions année après année. Mais en pratique, ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt sur la délivrance de toute façon de titres de séjour d'un an pour les étudiants.
Ce titre de séjour, il a aussi se pose la question du droit au travail, puisqu'effectivement, on peut être étudiant et travailler. Et comme quand les étrangers, tous les étrangers, ont nécessairement doivent avoir une autorisation pour avoir le droit de travailler. Les étudiants, et donc ceux qui ont un titre de séjour étudiant, sont autorisés à travailler à titre accessoire. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps partiel. Et la durée qui est autorisée, c'est 60% de la durée de travail annuelle. Autrement dit, quand j'ai un titre de séjour étudiant, je peux travailler 964 heures par an à compter du moment où mon titre de séjour m'est délivré. Donc sur cette année-là, je peux travailler des fois à temps plein, des fois à temps partiel, mais il ne faut pas que ça dépasse 964 heures par an. Par contre, je n'ai pas de démarche particulière à faire puisque c'est compris dans mon titre de séjour étudiant, j'ai cette autorisation de travail. Sauf si je suis algérien, puisque les Algériens sont soumis à un accord particulier et que donc les étudiants algériens qui viennent travailler en France doivent demander une autorisation de travail spécifique. Et j'ajoute que c'est important de respecter la durée du travail, puisque au moment du renouvellement, donc au moment où on va faire la demande d'un deuxième titre de séjour, troisième ou quatrième, la question de la préfecture, via la direction départementale du travail, peut vérifier que c'est effectivement été respecté et en cas de dépassement peut refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant. Ça reste dans le même esprit de je suis venu faire des études, pas travailler. Le travail, c'est uniquement pour compléter la bourse ou la source de revenus que j'avais. Sachant, étant précisé que pour ceux et celles qui auraient besoin, lors de leurs études, de faire une séquence de travail, par exemple les internes en médecine ou les assistants de langue, enfin des gens qui, du coup, dont le travail finalement fait partie de la formation, on peut obtenir une dérogation, donc un dépassement de ce quota d'heures. Par contre, il faut faire une démarche particulière à la direction départementale de la travail, de la formation et de l'emploi. De même que dans certaines formations, je pense aux écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs par exemple, il peut y avoir la nécessité de faire un stage professionnel qui est parfois de très longue durée. Et à ce moment-là, c'est pareil, il faut faire une démarche pour avoir l'autorisation et justifier que c'est en lien avec la formation suivie. Ce qui fait que dans ces cas-là, si là, par exemple le stage dure plus d'un an, une carte de travailleur temporaire peut être délivrée et après on peut revenir sur un statut étudiant si on prouve bien que c'est bien lié à la formation. Donc en résumé, on a un droit au travail quand on est étudiant qui est limité et dont il faut respecter la limite, et une demande d'autorisation qui doit être faite si on doit travailler plus que ces 964 heures et que c'est lié à la formation. Je précise simplement d'ailleurs, puisque là je parle de travail, que cette émission-là ne portera pas sur la question des étudiants qui voudraient travailler après, à la fin de leurs études, puisqu'on y reviendra dans la prochaine émission, ça fera l'objet d'une émission particulière, puisque c'est un sujet qui en tant que tel est assez long, on ne voulait pas tout mélanger. Voilà.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Du coup, quelles sont les conditions de renouvellement du titre de séjour étudiant ?
Alors, la première condition, qui est une condition formelle, c'est qu'il faut déposer son dossier 2 mois au minimum avant l'expiration du titre de séjour précédent. En gros, en général, les titres de séjour étudiant commencent en septembre-octobre, donc se préoccuper de ça avant l'été. Sachant qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, cette obligation de 2 mois, parce qu'on n'a pas trouvé le texte, mais c'est écrit sur les sites de partout, donc il vaut mieux la respecter de préférence. À ce moment-là, au moment où on va déposer la demande du renouvellement, il y a un récépissé qui va être remis, c'est-à-dire un document qui dit « Ok, vous allez renouveler votre titre de séjour », récépissé qui donne droit au travail dans la limite de ce que je disais, 964 heures par an, et qui permet en fait d'avoir une continuité du droit de l'autorisation de rester en France. Attention, le renouvellement, et ça c'est un point très important, le renouvellement d'un titre de séjour étudiant n'est absolument pas automatique. C'est-à-dire qu'il est soumis à des conditions qui, là encore, ne sont pas prévues par les textes, mais qui sont constantes et qui sont confirmées par les juges depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années en tout cas. C'est que le préfet va s'assurer que l'étudiant a progressé et est assidu dans ses études. C'est toujours la même idée de, on est là pour faire des études, pas pour prendre du bon temps, pas pour travailler non plus, en tout cas que dans le temps partiel. Et donc, le préfet va s'assurer, au vu des relevés de notes, que la personne a bien, enfin, que l'étudiant a bien assisté à ses examens, a eu des notes correctes, a progressé en tout cas, et que du coup, il y a bien des études effectives. Et ils sont assez drastiques là-dessus. En pratique, alors avec des réserves, parce qu'évidemment il y a toujours des exceptions, mais en général, on peut se planter la première année, c'est-à-dire que souvent les préfectures considèrent que la première année, ça peut être un peu compliqué, et en gros on peut faire une licence en 4 ans au lieu de 3. Mais il faut quand même faire attention parce que non seulement il faut avoir les moyens de subvenir, mais il y a une exigence particulière vis-à-vis des étudiants étrangers, beaucoup plus que par rapport aux étudiants français, puisque effectivement eux ne sont pas soumis à ces conditions-là. Donc il faut vraiment faire attention, et puis il y a vraiment donc la question de l'assiduité par exemple, et puis la question de la progression. En général, un redoublement. Si ce que je voulais préciser, c'est que si par exemple l'étudiant n'a pas pu assister aux examens ou se présenter aux examens en raison de la santé ou pour une raison X ou Y, il faut mieux, quand il va demander le renouvellement de son titre de séjour étudiant, faire un courrier qui explique les raisons pour lesquelles il n'a pas fait, c'est-à-dire anticiper sur la difficulté plutôt qu'attendre de voir en espérant que ça passe, parce que ça ne passe pas. C'est-à-dire que vraiment, il y a un contrôle très précis. Ils prennent le temps d'examiner les dossiers. Parfois, il peut y avoir deux récépissés avant que le titre soit renouvelé. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Et anticiper. J'ajoute que le fait de travailler n'est pas une excuse, entre guillemets, pour la préfecture, puisque par définition, on est censé avoir les moyens suffisants pour pouvoir étudier quand on vient en France. Donc, on ne peut pas dire simplement j'ai trop travaillé, j'ai pas pu, même si c'est le cas de beaucoup d'étudiants, puisque ce ne sera pas recevable pour la préfecture. Donc, il faut vraiment faire très attention à ces deux conditions-là.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Du coup, comment ça se passe en cas de changement d'orientation dans les études ?
Alors, changement d'orientation, donc là, on est toujours sur l'idée du renouvellement du titre de séjour. Donc, comment justifier d'une progression et du sérieux des études alors qu'en réalité, on a changé de cursus ? Il faut distinguer deux choses. Le premier cas, et celui-là, il pose pas trop de difficultés, c'est le cas où le changement d'orientation, il se fait au cours de la première année. Puisqu'en réalité, c'est une condition d'ailleurs qui est prévue pour tout étudiant. En principe, ça ne pose pas de difficultés parce qu'on estime qu'il est normal, enfin, que ça arrive, qu'on change d'orientation en ayant commencé une formation si elle n'est pas adapté soit à son projet, soit voilà, à sa volonté, ce qu'on souhaite étudier à ce moment-là. Par contre, ce changement d'orientation, même dans le cas de figure donc, où il se fait au cours de la première année, donc, où en principe ça ne pose aucune difficulté, il est valable pour un changement. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que des personnes du coup changent 2 fois au cours de cette première année, et là ça passe beaucoup plus difficilement au niveau de la préfecture. Autre hypothèse, et là on va tomber dans quelque chose de plus compliqué au niveau de la préfecture, c'est le changement d'orientation, donc à l'issue d'un parcours d'études en France, validé ou non par des diplômes, voilà, c'est le changement de cursus, on va dire un petit peu radical entre guillemets. Alors, La condition, en fait, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y ait une progression dans les études pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Donc, quand on change de cursus, quand on fait une orientation dans ses études, on est dans une dérogation, en réalité, à ce principe, donc à cette condition de renouvellement du titre de séjour. La préfecture, elle va néanmoins quand même admettre un changement, donc l'idée qu'on puisse changer ses études en cours de route, mais sur ce critère qui n'est là non plus pas prévu par la loi ni par un texte réglementaire. Par une circulaire, oui, mais la circulaire résulte en réalité de la jurisprudence, donc de la somme des décisions des différents juges sur le territoire français. Donc la préfecture va admettre qu'on puisse avoir un renouvellement de titre de séjour alors même qu'on a changé de cursus, si elle considère que ce changement il est cohérent. Cohérent, donc c'est la notion juridique. Alors concrètement, cohérence, ça va être en pratique pour l'administration, soit qu'il y a un lien avec les études précédentes, un lien qui est presque manifeste, hein, qui doit sauter aux yeux, par exemple l'économie-gestion, droit ressources humaines, c'est le genre de changement qui est admis par la préfecture. Autre possibilité, mais là il va vraiment falloir en justifier, c'est une cohérence par rapport au projet personnel ou professionnel de l'étudiant. Alors j'ai repris quelques cas pour illustrer un petit peu ça, des décisions des tribunaux, donc des cas où la préfecture a refusé, la personne a fait un recours et le tribunal ou la cour d'appel a considéré que la préfecture s'était trompée en refusant de renouveler. Un cas par exemple parlant, c'est quelqu'un qui a étudié la musique pendant un certain nombre d'années, qui ensuite est parti dans un cursus en psychologie parce que son projet professionnel était de faire de la musicothérapie. Donc là, on estime qu'il y a une cohérence en réalité dans le parcours d'études de la personne. Autre exemple, quelqu'un qui a étudié de l'informatique et qui plus tard a voulu valider un diplôme en langue anglaise parce que son projet professionnel et personnel, c'était de travailler à l'étranger et que voilà, sans la maîtrise de la langue anglaise, il pouvait difficilement postuler dans différentes sociétés à l'international. À l'inverse, des exemples qui ont été refusés, qui n'ont pas encore été jugés par contre, c'est quelqu'un qui étudiait la chimie et qui s'est réorienté vers la cuisine parce que c'était ce qui lui plaisait en réalité, c'était sa passion. Et là, la préfecture n'a pas compris qu'on pouvait changer, alors même qu'on peut toujours argumenter sur le fait qu'il y a un lien aussi entre la chimie et la cuisine. En tout cas... sachant que si on est dans le cas de changement d'orientation, donc qui peut être un motif de refus de renouvellement d'un titre de séjour de la préfecture, donc qui peut exposer au risque non seulement de ne plus être autorisé à séjourner en France, mais surtout d'être expulsé du territoire. Le conseil qui a été rappelé tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours anticiper cette difficulté. Donc, en cas d'orientation, de changement d'orientation dans le cours des études, ce que nous on vous conseille, c'est d'écrire à la préfecture, donc d'écrire une lettre commandée avec accusé de réception pour informer l'administration du changement, expliquer ce changement qui n'est en réalité peut-être pas un changement pour la personne concernée puisqu'elle a sa logique dans son parcours personnel ou professionnel, mais voilà, expliquer en tout cas la réorientation, le changement de cursus, en précisant son projet, son objectif, en justifiant, donc sachant ce critère de cohérence, en justifiant en quoi ce changement est cohérent, expliquer éventuellement de nouveaux cursus, donc les matières par exemple qui seront suivies ou le déroulement du cursus, le nombre d'années, est-ce qu'il y aura un stage, voilà, préciser un petit peu en quoi consistent ces nouvelles études, et mettre surtout tous les justificatifs nécessaires. Alors quand on parle de justificatifs, c'est par exemple attestation des enseignants qui vont valider le sérieux du projet, ou en tout cas qui vont dire je sais que cet élève, cet étudiant, depuis que je le suis, il a toujours eu pour objectif de faire ça, et donc il est logique, je ne suis pas étonnée qu'après avoir fait de la musique, il fasse de la psychologie. Attestation aussi des maîtres de stage, parce que c'est parfois au cours d'un stage qu'on réalise qu'on a un projet professionnel, enfin qu'on affine son projet professionnel. Justifier en tout cas par le plus d'éléments écrits en dehors de la lettre qu'on va faire, de cette cohérence donc du projet. Et conseil, bien sûr, toujours garder la copie de ce courrier avec la trace de l'accusé de réception par la préfecture, ou alors si ça se fait en main propre au guichet, jamais le faire par oral, toujours par écrit là encore, éventuellement en y allant avec une photocopie, en demandant à la préfecture de tamponner le double du courrier qu'on va remettre, ce qui font, enfin en tout cas à Lyon, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc pour résumer un petit peu tout ça, en cas de changement d'orientation, le critère c'est la cohérence, donc cette notion juridique, donc un lien soit entre les études passées et les études futures, soit une cohérence du projet global, donc au regard de son objectif professionnel, et anticiper en justifiant en amont auprès de la préfecture de pourquoi on fait ce changement. Et j'en profite sur cette partie-là pour faire une remarque en général, donc que ce soit en cas de changement d'orientation ou de demande de renouvellement de titre de séjour, où on sait que dans son parcours d'études, on a pu avoir des difficultés, par exemple un échec sur une matière, sur un semestre, par exemple un nombre d'absences un petit peu important, significatif sur l'année universitaire. Donc ouais, une situation délicate à risque, entre guillemets. Là encore, de façon générale, le conseil, c'est d'anticiper, comme il a été dit tout à l'heure, en envoyant une lettre recommandée à la préfecture. Donc ce qui est valable pour changement d'orientation, c'est pas valable de la même façon en cas d'échec, même sur un semestre, ou d'absentéisme, et justifier si c'est des motifs médicaux. Le type de justificatif, ça va être certificat médicaux, bulletin d'hospitalisation, en tout cas tout document médical qui va permettre de démontrer de façon vraiment explicite qu'il y a un lien entre l'état de santé et les conséquences sur les études. Si c'est un événement familial qui a pu se passer, là encore, l'expliquer et en justifier. Toujours justifier, anticiper avec l'administration. Et dernier conseil, c'est que si on est dans une situation où ça n'a pas marché les études, ou alors on a fini son projet d'études mais on souhaiterait pouvoir rester en France parce que un peu plus tard on a un autre projet, surtout ne pas oublier qu'il faut, avec la préfecture, en tout cas dans ce domaine-là, toujours faire des démarches conformes à sa situation concrète réelle. Ce que je veux dire en pratique, c'est qu'on parfois des personnes qui se retrouvent à l'échéance de leur titre de séjour et qui n'ont pas de projet avant les quelques mois qui suivent vont avoir tendance à paniquer, à se dire je vais vite trouver une formation, n'importe quoi, peu importe, pour pouvoir justifier auprès de la préfecture que j'ai quelque chose à faire, là, de façon imminente, et avoir le renouvellement de mon titre de séjour. Ça ne marche pas avec la préfecture, puisque si on a un projet, une inscription qui vient un peu au dernier moment, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusque-là, et dont on ne pourra pas justifier si on a un refus, qu'elle est cohérente par rapport à son projet personnel ou professionnel, on s'expose à un refus qui sera validé par le tribunal. Donc sachant ça, il faut pas oublier que, par contre, il y a une autre porte de sortie quand on est au terme de ses études et qu'on a un projet dans les quelques mois qui suivent, c'est qu'on peut demander, mais je crois qu'on en parlera beaucoup pour la prochaine émission, mais on peut demander une autorisation provisoire de séjour à l'issue des études, justement pour pouvoir avoir une expérience professionnelle en France, ou si on a un stage, une activité qui nous attend quelques mois plus tard.
Je précise que ça, c'est pour les gens qui ont un master quand même, donc simplement c'est un bac plus 5 ou l'équivalent d'un master, mais du coup ça c'est une possibilité, parce que c'est vrai qu'on rencontre souvent des étudiants qui en fait justement avaient un stage quelque chose et qui se sont trompés dans la façon de s'orienter, donc c'est vraiment important de, en tout cas, de bien se renseigner en amont et d'aller voir du monde pour savoir quelle orientation prendre.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant ?
Alors déjà, à quoi ça ressemble, le refus de renouvellement de titre de séjour étudiant ? Ça ressemble à une lettre recommandée que vous recevez à votre domicile. Donc c'est pas juste quand on reçoit un courrier de la préfecture, c'est souvent pas juste un courrier, c'est une décision. Je dis ça parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'on n'ait pas l'impression qu'en fait ça a les conséquences que ça a réellement. Et en fait, c'est un courrier qui est en général écrit en gros, en gras et en souligné, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Quand on reçoit ça, il faut absolument agir assez rapidement. Je précise également que c'est donc envoyé à l'adresse du domicile, et que donc il faut bien faire, et notamment je pense aux étudiants qui souvent changent d'une année sur l'autre de domicile, de bien signaler le changement d'adresse à la préfecture, puisque si le courrier a envoyé une mauvaise adresse et qu'il n'est pas retiré, ça n'empêchera pas la décision d'être effective, et donc éventuellement de faire l'objet d'une expulsion d'un placement en rétention, d'une assignation résidence et d'une expulsion ensuite. Du coup, aussi pour le même motif, bien aller chercher le recommandé et ne pas se dire oula, je vais surtout pas aller le chercher parce que sinon comme ça va bien se passer. En fait non, parce que si vous n'avez pas le retiré, c'est considéré comme s'il avait été bien envoyé et bien reçu, sauf que d'une part vous n'avez pas la décision, et d'autre part ça n'empêche pas qu'encore une fois que tout ce qui a été indiqué dans la décision soit effectif et donc puisse être exécuté. Ça veut dire, pas exécution quand même, mais ça veut dire assignation à résidence, placement rétention éventuel et expulsion forcée. Donc vraiment faire attention à ça et bien considérer que tout ce qui vient de la préfecture peut être un signe d'une décision négative. Je précise également que cette décision, elle peut intervenir alors même que le récépissé de renouvellement est en cours de validité, voire qu'il vient juste d'être renouvelé. C'est-à-dire que c'est vraiment deux choses différentes, et du coup, parce que ça peut parfois être un peu surprenant. On est allé à la préfecture trois jours avant et on nous avait rien dit, et le récépissé est valable pendant 3 ou 4 mois, et en fait la décision arrive juste après. C'est simplement que les services se sont pas forcément concertés et que c'était pas encore enregistré dans la fiche de la personne de guichet qui s'est pas rendu compte qu'il y avait déjà un refus de titre de séjour. Donc voilà, c'est très concrètement, c'est un courrier de la préfecture qui fait pas plaisir.
Alors du coup, comment réagir quand on reçoit cette décision ?
Alors, quand on reçoit cette décision, donc sachant qu'on parle ici de la décision où c'est marqué en gras, refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, en principe, le délai de recours, il est de 30 jours. 30 jours, c'est pas un mois, c'est vraiment 30 jours, jour pour jour, donc faut compter le nombre de jours dans le mois pour savoir quand expire le délai de recours. Et également, autre piège qui peut arriver, c'est que parfois la préfecture, préfecture du Rhône notamment, elle va estimer que puisqu'on est à la fin d'une année universitaire ou scolaire, par exemple, normalement on a 30 jours pour quitter le territoire lorsqu'on reçoit ce genre de décision. Parfois la préfecture va rallonger ce délai en disant ben, vous avez 120 jours ou 60 jours pour quitter le territoire, l'idée étant de permettre à la personne de passer son examen ou voilà, le concours qu'elle doit passer de façon assez proche dans le temps. Donc même si ce qu'on appelle le délai de départ volontaire est prolongé, le délai de recours, donc le délai pour contester ce qui est écrit dans la décision et puis obtenir du coup à terme le renouvellement de son titre de séjour, il reste bien toujours de 30 jours. Voilà, donc pas se tromper par rapport aux deux différents délais qui peuvent être indiqués dans la décision. Comment réagir donc? Tout de suite, dès qu'on reçoit ce genre de décision, ce courrier de la préfecture, tout de suite prendre contact, soit avec une association, mais où il y a des juristes au sein de l'association, soit avec un avocat. Vous allez voir sur ce courrier, cette décision, il est indiqué en dessous du délai de 30 jours pour faire un recours au tribunal, qu'on peut également saisir la préfecture de ce qu'on appelle un recours gracieux. Alors, ça sera expliqué un peu plus encore tout à l'heure. Un recours gracieux, c'est en gros écrire directement à la préfecture pour lui dire je ne suis pas d'accord avec cette décision, ou alors vous vous êtes trompé, parce que ça arrive que la préfecture se trompe sur quelque chose d'essentiel. J'ai notamment vu le cas de quelqu'un qui était doctorant, et on lui a dit vous avez fini. Alors il n'avait absolument pas fini, il était toujours en cours d'études. Donc voilà, c'était une erreur flagrante qui changeait absolument tout au sens de la décision. Mais donc même si on veut le signaler à la préfecture en disant vous vous êtes trompé, ce qu'il faut savoir c'est que pour ce type de situation-là, le fait d'écrire à la préfecture ne va pas suspendre ou interrompre le délai de recours devant le tribunal. Donc concrètement, ça veut dire que vous pouvez bien sûr faire le courrier à la préfecture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de réponse positive de la préfecture dans le délai de 30 jours, il faut de toute façon impérativement saisir quand même le tribunal, parce qu'après, ça sera trop tard, on ne pourra plus faire cette démarche. S'agissant de ce recours, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette matière-là, elle est quand même très juridique pour le coup, donc on conseille quand même de prendre un avocat pour ça, sachant que si on n'a pas les moyens de payer un avocat, pas les ressources, on peut bien sûr demander à ce que les frais d'avocat, les frais de justice soient pris en charge par l'État, donc par le dispositif d'aide juridictionnelle, mais là je vais renvoyer à notre première émission, on a pas mal parlé de ça. Voilà. Et sachant aussi que si on souhaite un avocat pour faire ce recours, qu'on n'a pas les moyens de payer les honoraires d'avocat, donc qu'on veut bénéficier de l'aide juridictionnelle, il y a là encore un petit piège en droit des étrangers, c'est que la demande, elle doit se faire au plus tard au moment où on saisit le tribunal. Donc il ne faut surtout pas aller au tribunal, déposer son recours, et ensuite dire je vais chercher un avocat et lui demander d'intervenir à l'aide juridictionnelle. Ça ne sera pas possible, ce n'est pas prévu, contrairement à d'autres matières. Dans cette matière-là, il faut demander l'aide juridictionnelle au plus tard au moment où on dépose le recours au tribunal. Après, donc, une fois qu'on a déposé ce recours, donc sans tout détailler, juste en gros, la procédure donc, se déroule devant le tribunal administratif. C'est une procédure écrite, donc en gros, l'essentiel du travail va se faire en amont par écrit. Et il est très important, là encore, de justifier par tous les documents possibles de sa situation, de son cursus d'études. Donc, attestation détaillée et vraiment les plus individualisées possibles des professeurs, relevé de notes, liste des matières. Si on a eu des absences, justifiées de pourquoi, donc au niveau médical, familial, là encore avec certificats médicaux, lettres, etc. Éventuellement des dates d'examen si c'est de façon imminente, sachant que donc, la procédure en tout peut durer quand même quelques mois. À Lyon, en principe, du moment où on dépose le recours, on a une date d'audience fixée dans les 3 mois qui suivent et la réponse n'est pas le jour de l'audience, mais quelques semaines après le jour de l'audience.
Et juste pour terminer, comme on disait en début d'émission, le titre de séjour étudiant, il donne pas droit en tant que tel à autre chose qu'à faire des études. Donc les années qu'on a passées pendant ce temps-là ne comptent pas vraiment comme des années de résidence. Et donc c'est assez particulier. Cela étant, il faut pas hésiter non plus à faire, alors soit si on fait le recours tout seul, à l'écrire, soit à le dire à l'association ou l'avocat, à exposer le reste de la situation. C'est-à-dire qu'en dehors des études, on peut avoir rencontré quelqu'un avec qui on mène une vie, on a une vie commune, avoir eu des enfants, ça peut arriver aussi, avoir rencontré des gens, avoir été malade malheureusement, et du coup que ça puisse ouvrir peut-être d'autres possibilités d'avoir un titre de séjour. En tout cas, ne pas hésiter à exposer l'intégralité de la situation, parce que on s'aperçoit parfois que les personnes restent vraiment sur la question de voilà pourquoi j'ai raté mon examen ou quelque chose comme ça, et pas forcément penser à tout le reste. Donc voilà, et bien penser à noter l'évolution de la situation, parce que parfois quand ça fait plusieurs années, il peut y avoir une situation personnelle qui a beaucoup évolué. Donc en résumé, quand on a un refus de titre de séjour, il faut aller très vite. De préférence, aller voir une association ou un avocat, même si, encore une fois, si les gens veulent faire tout seul, il n'y a pas de difficulté. Pensez à déposer un dossier d'aide juridictionnelle le plus rapidement possible si jamais on n'a pas les moyens de se payer un avocat. Pensez à exposer toute la situation, c'est-à-dire à la fois la situation étudiante, mais tout ce qu'il peut y avoir à côté. Et même si c'est possible d'écrire au préfet pour lui dire qu'il s'est trompé sur sa décision, toujours pensez qu'il faut d'abord et avant tout aller devant le tribunal administratif.
Le mot qu'on comprend rien.
Alors aujourd'hui, le mot qu'on comprend rien, c'est le recours gracieux. Bon, Sophie en a parlé tout à l'heure. Alors c'est quoi un recours gracieux? C'est pas un joli recours. C'est un recours qu'on oppose au recours contentieux, en fait. Parce qu'il faut voir qu'en droit, en général, il y a une distinction entre la matière gracieuse et la matière contentieuse. La matière contentieuse, c'est quand il y a un conflit entre deux personnes et qu'on demande à un juge de régler ce conflit et de dire qui a tort, qui a raison. En gros, c'est un peu ça. Et la matière gracieuse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de conflit entre deux personnes, mais qu'il faut quand même que un juge prenne une décision pour définir une situation. C'est le cas par exemple dans le domaine de l'adoption. Donc un recours gracieux, c'est un recours en fait, comme l'a expliqué Sophie, qu'on fait contre une décision qui a été prise par l'administration et qu'on fait auprès de cette même administration. Donc en fait, on demande à l'administration tout simplement amiablement de revoir sa copie en lui disant bah, est-ce que vous êtes bien sûr de la décision que vous avez prise? Regardez ma situation, vous n'auriez pas dû prendre cette décision. Et donc parfois ça marche et il est possible que l'administration d'elle-même se rende compte qu'elle s'est trompée et prenne une autre décision. Donc voilà, c'est la définition. Étant rappelé ce qu'a dit Sophie et qui est très importante, donc en matière de droit des étrangers, ce recours gracieux est pas suspensif et il est surtout du coup il faut absolument faire à côté un recours contentieux en même temps, même si le recours gracieux peut éventuellement marcher. Voilà, donc c'est la fin du fil d'Ariane et notre prochaine émission.
Ça veut dire que ce recours gracieux, c'est comme d'implorer grâce.
C'est exactement ça, d'implorer grâce en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine émission, donc, ce sera le 20 mai et on va rester sur la question du droit au séjour des étudiants étrangers, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Et pour rappel, notre blog et notre adresse mail, lefildariane@rebellion.info, si vous avez des questions, soit sur l'émission d'aujourd'hui, soit pour la prochaine.
Eh ben, bonne soirée.
Merci de nous avoir écoutés et on va laisser place à Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et merci de nous avoir laissé quelques petites minutes en plus.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Idées Noires, des informations pratiques sur le droit et la justice.